France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'affaire Michael Harpon. Ou comment, dans ce lieu hyper protégé qu'est la préfecture de police de Paris, un homme dépeint comme discret a pu tuer quatre de ses collègues à l'arme blanche et en blesser deux grièvement en octobre 2019. Une tragédie qui éclate dans le sein des seins de la sécurité et du fait d'un homme qui faisait partie de ses effectifs depuis 16 ans et qui était habilité secret défense, un sésame lui permettait d'accéder à toutes les données professionnelles de ses collègues ainsi qu'à leurs adresses personnelles. Un risque immense au vu de ses accointances avec la mouvance djihadiste. Mais le savait-on? Dès lors, oui, la question se pose. Comment cet homme a-t-il pu évoluer dans un lieu aussi sécurisé que la préfecture de police, là où précisément on traque les terroristes? Était-il protégé? Y a-t-il eu des signaux faibles qui n'auraient pas été communiqués à la hiérarchie? Des questions qui bientôt éclaboussent le gouvernement, au premier rang duquel Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Notre invité aujourd'hui, Mathieu Suc, journaliste à Mediapart et spécialiste du terrorisme. Il est l'auteur d'une enquête en 5 épisodes sur cette affaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Sophie Bobert, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Jeudi 3 octobre 2019, gare de Villiers-le-Bel, à 15 km de Paris. L'homme qui monte dans le RER de 8h22 a l'air fatigué. Il s'appelle Michael Harpon. Il s'est levé tôt, sous un ciel gris. Comme tous les jours, il a quitté sa résidence située le long de la départementale, il s'est rendu à la mosquée. Puis il a pris le bus qui le mène à la gare pour rejoindre son travail, à Paris. Mais surtout, il a passé une mauvaise nuit, une nuit étrange. Vers 3 heures du matin, il s'est réveillé après avoir entendu des voix. C'était Allah. Alors, il est monté sur le canapé, il a crié « Allah Akbar » très fort. C'était plus fort que lui. Bien sûr, ses cris ont réveillé sa femme, qu'il a trouvée debout sur le canapé. Il a dû lui expliquer qu'Allah lui avait fait signe en lui demandant de lire le Coran et de le lire à ses enfants. Puis il a récité la Shahada, la profession de foi musulmane, et il s'est endormi là, tout seul, sur le canapé. L'un de ses voisins, réveillé lui aussi, témoigne.
Je suis réveillé sur les coups de 3h30, 4h du matin, par des cris. Donc des cris assez puissants, la personne criait, et c'était Allahu Akbar, plusieurs fois. La voix était plutôt particulière, peut-être comme quelqu'un de déterminé, ou peut-être comme une personne qui a du mal à parler, étant donné qu'il a un handicap, donc sa voix n'était pas tout à fait normale.
Une voix qui trahit son handicap, en effet. Une méningite contractée durant son enfance passée en Martinique, qu'il a laissé malentendant à 70% et qui l'a conduit à suivre sa scolarité à l'Institut National des Jeunes Sourds, rue Saint-Jacques, à Paris. Sa femme aussi. C'est d'ailleurs dans une association pour malentendants qu'il l'a rencontrée. S'ensuit un mariage en 2014 et l'installation à Gonesse, dans une résidence quasi entièrement occupée par des fonctionnaires de police comme lui. Il est agent administratif de catégorie C, pour être précis, et ce depuis 2003, chargé de la maintenance informatique. Les jours s'écoulent ainsi, paisibles, entre la naissance de leurs deux enfants, les parties de foot du dimanche et les prières à la mosquée. Ancien fidèle de l'église chrétienne adventiste, c'est au contact de sa femme, d'origine marocaine, qu'il s'est converti à l'islam. Une foi qui l'aide à maîtriser sa colère. Car il en est persuadé, c'est sa surdité qui l'empêche de gravir les échelons et d'être promu en catégorie B, là où il pourrait encadrer une équipe de policiers, qui à ses yeux d'ailleurs sont tous racistes. Une hypothèse que l'un de ses proches confie à Paris Match.
Il ne supportait plus les attaques contre l'islam et réagissait méchamment face à quiconque osait émettre une critique ou même un trait d'humour contre sa religion. Ses réactions étaient étonnamment agressives. Selon lui, les musulmans étaient victimes de discrimination, comme lui avec son handicap.
Une rancœur qu'il rumine de plus en plus. Alors il craque. Il crie « Allahu Akbar » comme un damné. Il explique à sa femme qu'à la préfecture, sa collègue lui met la pression. comme la vie est injuste. Lui qui est si généreux, si appliqué, la preuve. Après le dîner, il s'est rendu chez un ami malentendant pour l'aider à remplir un dossier. Au retour, sa femme l'a trouvé mutique. Il n'avait plus envie de parler, il se sentait trop triste. Jusqu'à ce que Allah entre en contact avec lui. Et voilà qu'apparaît la station Saint-Michel Notre-Dame, d'où il sort pour rejoindre son travail à la préfecture. Un lieu prestigieux, la préfecture. Considérée comme un sanctuaire, elle est une institution à part entière, un état dans l'état, qui gère l'ensemble des dispositifs de sécurité de Paris et de l'Île-de-France. Police, pompiers, gendarmerie, rien ne lui échappe. En plus des services administratifs et des services de renseignement. Ah, tiens, le renseignement. Voilà qui fait rêver. Dans le jargon, on parle de la DRPP, la Direction du renseignement de la police de Paris. En somme, les héritiers des RG, les fameux renseignements généraux. Bien sûr, nombreux sont comme Harpon de simples agents administratifs. Il n'empêche, même s'il n'a pas le droit de porter une arme, il possède l'habilitation secret défense qui lui donne accès à toutes les informations que traitent ses collègues. Et à leurs données personnelles aussi. Une vraie marque de confiance. À 8h58, il entre dans la cour centrale et monte à son bureau, le numéro 1115, situé au premier étage. Mais il ne parvient pas à se concentrer. « Bah alors, Mika, comment tu fais pour travailler si tes écrans sont éteints ?» lui lance sa chef, un brin agacé. De toute façon, depuis quelque temps, elle le trouve étrange. Il ne lui fait même plus la bise, sous prétexte qu'elle est une femme et qu'il s'est converti à l'islam. Ou peut-être est-ce parce qu'il avait sollicité l'assistance d'un traducteur en langue des signes et que sa demande est restée lettre morte. À 11h21, il contacte sa femme et lui envoie 33 SMS d'affilée à connotation exclusivement religieuse. Une logorée qui s'achève par ces mots « Suis le prophète bien-aimé Mohamed et médite le Coran ». À 12h18, les caméras de surveillance indiquent qu'il quitte la préfecture. A-t-il un rendez-vous pour le déjeuner? Pas vraiment. Il traverse la Seine par le petit pont et chemine vers une quincaillerie de la rue Saint-Jacques, où à 12h23, il achète un couteau de 33 cm et un couteau à huîtres. Le vendeur ne remarque rien de particulier, tout juste se souvient-il d'un quadragénaire de type antillais, cheveux courts, lunettes rectangulaires à la mode et qui ne traîne pas. Pourtant, sur le chemin du retour, le voilà qui fait un détour pour dissimuler ses achats. À 12h36, il franchit les portiques de sécurité de la préfecture sans les faire biper et regagne son bureau. La suite, c'est Émilie Blacher qui le raconte pour Paris Match.
Un bruit guttural étonne Magali, agent administratif, assise devant son ordinateur au premier étage de la DRPP, la direction du renseignement. Mais elle pense que c'est le brouhaha habituel de la rue. Elle lève la tête puis replonge dans son travail lorsqu'une seconde plainte, plus sauvage, l'alerte. Les cris la guident jusqu'à un bureau. À l'intérieur, un homme gît déjà sur son fauteuil. Un autre se débat au sol. Son agresseur, Rabelais, est à califourchon, plié en deux. Elle le reconnaît. C'est Michael Harpon, son collègue.
Michael Harpon, oui, l'agent administratif discret et handicapé. Eh bien, c'est lui qui, à 12h53, sort son couteau et égorge son collègue Anthony, tandis qu'il déjeune. Avant de se jeter sur Damien, juste en face, et le poignarder à 14 reprises. Une fureur que rien ne calme. Et puis, il y a cette porte-là, toute proche, derrière laquelle trois collègues déjeunent. Laquelle d'entre elles a eu l'idée de la fermer à clé? Un désir d'intimité? Une réunion improvisée? Michael Harpon n'insiste pas. Et tente sa chance dans une pièce voisine où il reconnaît le jeune Brice. Celui-ci tente de s'échapper et se cache derrière le mobilier. Peine perdue. Michael vise son cœur et son foie. Puis il dévale l'escalier C où il croise Aurélia qui travaille au RH. Il la poignarde. Et puis voilà Rosalie qui attend l'ascenseur. Le regard fixe, il se dirige vers elle et la frappe au niveau du cou. Les cris qu'elle pousse alertent Jonathan, un jeune gardien de la paix en poste dans la cour centrale.
Une collègue qui venait de la cour de la préfecture m'a apostrophé. Elle sanglotait et elle était affolée. Elle a affirmé qu'un terroriste se trouvait dans l'enceinte de la préfecture, qu'il était armé d'un couteau et qu'il venait de poignarder plusieurs collègues. Il tenait dans sa main droite un couteau de cuisine avec une grande lame, pleine de sang.
Ce jeune collègue a 24 ans, cela fait 6 jours qu'il a commencé son stage à la préfecture. Et soudain, il croit ce tueur habité par la haine, qui s'avance vers lui, le bras levé. Une première sommation, sans effet. Alors il met harpon en joue avec son pistolet mitrailleur 9 mm, mais celui-ci refuse d'obtempérer. Le jeune policier tire une première balle en visant le torse, comme lui a appris à l'école de police. Le tueur ralentit, certes, mais reprend sa course. Le second tir à la tête est fatal. Michael Harpon s'effondre dans la cour centrale, dite du 19 août 1944.
Moi, j'étais dans mon bureau, juste au moment où j'ai entendu des cris d'une femme. Et en ce moment, avec ma responsable hiérarchique, on s'est dirigé vers la fenêtre. C'est au même moment qu'on a vu l'assaillant avec le couteau et entendre le policier qui lui disait « Jetez votre couteau ». Il y a eu deux fois la sommation. Donc, en ce moment, il s'est précipité vers le policier. Il s'est dirigé vers le policier. C'est en ce moment que le policier a tiré.
À la préfecture, le choc est immense et le bilan glaçant. 7 minutes ont suffi à Michael Harpon pour tuer 4 fonctionnaires et en blesser 2 autres grièvement. On parle de sauvagerie, d'acharnement, mais surtout du fait que le tueur était l'un des leurs et que les meurtres ont été commis au cœur du pouvoir policier. On rappelle que depuis les attentats de 2015, la sécurité a été renforcée. Alors, comment un tueur a-t-il pu sévir ? Le fait qu'il soit parvenu à faire passer un couteau par les portiques de sécurité stupéfait tout le monde. Mais est-ce un hasard si la veille de la tuerie, une marche de la colère avait réuni 27 000 fonctionnaires dans la capitale ? Commissaires, gardiens de la paix, agents administratifs, tous ont rappelé la dureté de leurs conditions de travail et les suicides. D'ailleurs, dans les colonnes du Parisien, les syndicats de policiers préviennent « Attention, ça va mal tourner !» Parole prémonitoire.
C'est une grosse colère, mais c'est pas faute de l'avoir dit. C'est-à-dire que ça fait 6 mois qu'on prévient, 6 mois qu'on dit attention, la corde va lâcher et attention, les fonctionnaires de police vont retourner dans la rue. Et en plus, c'est tout corps confondu, tout syndicat confondu. L'administration, le gouvernement doit prendre acte de cette mobilisation, mais doit tout de suite derrière donner des actes concrets. Il nous faut de la considération, il nous faut du respect et demain, après-demain, ça doit tomber, on doit faire en sorte que le fonctionnaire de police se sente mieux.
La banderole, policier en deuil, je vous demanderai de laisser passer, s'il vous plaît.
L'ensemble des policiers, je pense, ont atteint la limite de ce qu'ils pouvaient supporter. Il y a un certain ras-le-bol chez nous. Les raisons, nous, qui nous amènent ici, c'est le manque d'effectifs, le manque de moyens, le manque de reconnaissance.
Un manque de reconnaissance, oui. Et un cri d'alarme lancé à Françoise Bilancini, qui a pris la tête de la DRPP, ainsi qu'à Didier Allemand, à qui la préfecture a été confiée 6 mois auparavant. En somme, en cet automne 2019, les policiers craignent une hiérarchie instable, bousculée par les répliques des Gilets jaunes, qui relèguent les questions du terrorisme au second plan. Un relâchement, peut-être. Mais tout de même, une tuerie sur leur lieu de travail. Après le drame, le quartier de la préfecture est bouclé, l'île de la Cité fermée. Un hélicoptère dépose Emmanuel Macron qui a repoussé sa visite à Rodez où il devait animer le premier débat sur la réforme des retraites. Derrière lui, le Premier ministre, Édouard Philippe, le procureur de la République, Rémi Heitz, le procureur antiterroriste, Jean-François Ricard, et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Au sol, devant des traces de sang, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, se tient droit, pâle. Parce qu'il sait que l'heure est grave et qu'il doit rendre des comptes. Car enfin, comment comprendre que la préfecture de police ait pu abriter un ennemi, mais surtout, a-t-il agi seul ou mu par une idéologie plus large ? En somme, Michael Harpon était-il un islamiste ?
How does it feel when it's quiet and calm? And will I be How will it feel when it's time to move on? Mother says kneel and pray. When it gets hard, I won't roll those sleeves. Life can be so Solid ground.
Aujourd'hui, l'affaire Michel Harpon.
France Inter, affaire sensible.
Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte, et ce matin a commis ce parcours meurtrier.
C'est l'analyse du téléphone portable qui fait tout basculer. On y découvre les 33 SMS envoyés à sa femme. Et elle raconte la rancœur envers les collègues, la crise mystique surgit durant la nuit, mais aussi les relations nouées avec des salafistes via la messagerie Telegram. Le procureur de Paris, Jean-François Ricard, saisit alors le parquet national antiterroriste. Les enquêteurs découvrent que le tueur fréquentait une association anti-aise connue pour son prosélytisme islamiste, ainsi que la mosquée de la Fauconnière, dirigée par Ahmed Hilali, un imam fiché S, visé par un avis d'expulsion qu'il était parvenu à contourner. Interrogé sur France Info avant d'être à son tour placé en garde à vue, ce dernier assure n'avoir jamais parlé au tueur, tout au plus lui avoir serré la main. Alors, où est le mal ? Eh bien, le mal, c'est que trop de signaux faibles s'agrègent autour du profil de Michel Harpon. Dans le jargon, on appelle ça la radicalisation latente. Pourtant, lors de leur perquisition chez Harpon, les enquêteurs avaient trouvé un appartement sans armes, ni drapeau de l'État islamique. Une maison de Monsieur Tout-le-Monde. Son profil Facebook lui révèle moins de 30 amis. Des vidéos humoristiques, des photos de vacances en Espagne. Et puis, plus rien, depuis le 1er juillet. Plus rien, hormis des partages de vidéos concernant la Syrie ou la Palestine. Interrogé, les voisins décrivent un homme discret qui se rend camis pour aller prier. À la mosquée, l'un de ses amis confie « Il m'a dit qu'on ne le prenait pas au sérieux au travail, à cause de son handicap, et ça l'affectait. » Il faut dire que certains de ses collègues l'appelaient Bernardo, vous savez, comme le serviteur de Zorro. En vérité, Michel Harpon ne supportait plus ses collègues et trouvait dans l'islam une zone de réconfort. Mais est-ce pour autant de l'islamisme ? Et voilà que surgit une info qui met le feu aux poudres. En juillet 2015, soit quelques mois après l'attentat contre Charlie Hebdo, Harpon s'était exclamé « C'est bien fait !» Une vive querelle s'était alors enclenchée à l'issue de laquelle ses deux collègues en avaient parlé à leur chef. Et c'est là que le dysfonctionnement opère. Lorsque le chef leur propose de signaler la faute par écrit, les collègues reculent. C'est qu'ils ont honte d'accuser un homme handicapé. Alors on en reste là. Oui, on préfère minorer. Même si les propos de Harpon sont passibles de poursuites pénales pour apologie du terrorisme. Bref, une situation gênante, comme en témoigne dès 2015 le commandant Christophe Rouget sur France Inter.
Il faut qu'on ait la possibilité d'avoir toutes les informations, que chacun puisse puiser dedans et effectivement éviter la suspicion qu'il aurait pu avoir un loupé. Aujourd'hui, il peut y avoir des loupés justement parce qu'il n'y a pas d'interconnexion et qu'un collègue qui peut recevoir une information qui paraît comme ça insignifiante ne sait pas toujours à qui la communiquer. Parce qu'on est organisé en tuyaux d'orgue dans cette police nationale, avec des directions bien séparées les unes des autres, et on ne sait pas toujours à qui faire remonter des informations qui, je ne vous cache pas, sont quotidiennes.
Dans l'hebdomadaire Le Point, le sociologue Hugo Micheron s'étonne. que dans le bastion de l'antiterrorisme, on ne réagisse pas à des propos tels que ceux tenus sur Charlie Hebdo, et que cela en dit long sur l'approche de la radicalisation, explique-t-il. Dans la foulée, le journaliste Mohamed Sifaoui explique que c'est tout un substrat idéologique qu'on laisse prospérer dans un confortable déni. La hiérarchie de la police ne veut toujours pas admettre qu'elle peut, elle aussi, être menacée. Ces syndicats, eux, sont mortifiés et soulignent les injonctions paradoxales dont ils sont victimes. Comme ici Philippe Capon de l'INSA, toujours dans les colonnes du Point.
Lorsque j'entends des collègues proches de Mickaël Harpon dire qu'ils n'ont pas voulu mettre par écrit ce qu'ils avaient constaté ou entendu, je suis horrifié. Il s'est développé dans l'institution une phobie du racisme et une hantise de passer pour xénophobe. Des plateformes de signalement ont été mises en place contre les discriminations. Des circulaires ont circulé. Et aujourd'hui, tout se mélange. À l'arrivée, on finit par se convaincre que le mieux est encore de se taire. Je garde en mémoire le témoignage d'une collègue qui avait un doute sur le comportement prosélyte d'un jeune gardien de la paix. Elle l'a signalé, il a pris un avocat, et au final, tout le monde s'est couché.
Et ce n'est pas tout. Les enquêteurs découvrent que Mickaël Harpon avait infligé à sa femme des coups et blessures provoquant 8 jours d'interruption de travail. Une violence dont le tribunal correctionnel de Pontoise l'avait reconnu coupable en octobre 2009. Conséquence, un avertissement inscrit dans son dossier administratif. Mais rien de plus, surtout pas de vague. Alors, qu'en pense Christophe Castaner qui, le jour de la tuerie, avait brossé le portrait d'un homme tranquille? Eh bien, on s'interroge. Était-il à ce point ignorant des dysfonctionnements au sein de ses équipes? Ou était-il simplement incapable de résister à l'attrait des caméras? Dans l'émission Complément d'enquête, la journaliste Laurence Perron revient sur la façon dont le ministre gère sa communication.
Il n'aurait sans doute pas dû s'exprimer comme cela. Et en fait, c'est quelque chose d'assez récent. C'est-à-dire que c'est Nicolas Sarkozy qui a commencé à se mettre en scène, à arriver tout de suite sur les terrains où il venait d'y avoir un drame et d'avoir tout de suite une prise de parole politique. C'est la manière de fonctionner. Il faut se souvenir que Christophe Castaner, c'était quand même le porte-parole du gouvernement qui faisait ses comptes rendus du Conseil des ministres sur son scooter en se filmant avec son téléphone portable. C'est une manière de faire de la politique qu'on peut trouver très nouveau monde. Effectivement, ça cadre pas quand on est face aux gilets jaunes et quand on est face à une attaque terroriste, effectivement.
Et les réactions politiques ne se font pas attendre. Le leader des Républicains, Christian Jacob, conseille à Emmanuel Macron de s'interroger sur les qualités et compétences de Castaner. Plus offensif, la France Insoumise et le Rassemblement National demandent sa tête. Acculé, Christophe Castaner se voit obligé de s'expliquer dans la matinale de France Inter.
C'est un dysfonctionnement d'État. Un scandale d'État, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est effectivement un dysfonctionnement d'État. Et je vous le dis, si des informations qui n'ont pas été communiquées en juillet 2015 auraient permis de sauver la vie de ces 4 personnes, c'est d'abord un drame personnel. Et je pense aussi aux familles avec qui je suis en contact depuis jeudi, que je recevrai tout à l'heure. Je pense à l'émotion au sein de la préfecture de police. Je préfère éviter les procès politiques et les grandes phrases politiques. Aujourd'hui, c'est la police, ce sont ces familles qui ont besoin d'aide et c'est notre système qui doit être amélioré. C'est ce que nous faisons constamment depuis 2017.
Le ministre pense à l'émotion des familles, certes, mais il pense aussi à se couvrir. Donc il l'assure. Il ne s'agit pas d'un scandale d'État, mais d'un dysfonctionnement d'État. Question sémantique. Oui. Sauf qu'au-delà de sa mauvaise com, le ministre de l'Intérieur doit aussi assumer cette info terrifiante. Le tueur possédait toutes les données de ses collègues, ainsi que leurs adresses personnelles, grâce à son habilitation secret défense. Serait-il possible qu'elle soit stockée sur sa clé USB? 160 fonctionnaires tentent de la décrypter, car l'homme avait tout encodé. Une vraie bombe à retardement. Dès lors, on s'interroge. Harpon aurait-il collecté des infos pour les transférer à des complices? À la DRPP, un ancien affirme que le système informatique doit être entièrement vérifié au cas où le tueur y aurait glissé des logiciels espions type cheval de Troie. C'est peu de dire que le malaise grandit dans les rangs de la police. Et revient en mémoire la tragédie de 2016 à Magnanville, lorsqu'un couple de policiers avait été assassiné devant leur fils de 3 ans à leur domicile. C'était le même mode opératoire. Leur adresse avait circulé entre islamistes via une clé USB. Voilà pourquoi la profession se sent à nouveau menacée, comme les policiers le confient sur France 3.
C'est pas d'aujourd'hui, hein. Les attentats de 2015 et les événements qui ont suivi nous ont prouvé que nous étions des cibles à part entière. La peur fait partie de notre quotidien, hein. Depuis que nous sommes rentrés dans la police, les uns comme les autres. Ce qui nous pose problème, c'est de le ramener à la maison.
On le dénonce assez régulièrement, en fait, vous voyez, que le ver est dans le fruit, comme on dit, quoi, vous voyez. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est un fait de société, quoi, hein. Vous voyez, donc, que ça vient de l'intérieur, pour nous, c'est presque pire, quoi, vous voyez. C'est presque pire.
Bien sûr que c'est pire. D'autant qu'Arpon est loin d'être un cas isolé. À bien la regarder, ce phénomène touche aussi les éducateurs de la protection judiciaire, par exemple, les chauffeurs de la RATP, les enseignants ou les surveillants pénitentiaires. Le secrétaire général de l'IFAPUNSA Justice, Wilfried Funk, l'affirme. Les cas de surveillants qui refusent de serrer la main aux femmes ou qui lisent le Coran au mirador ne sont pas rares. En somme, c'est tout le service public qui est touché. Pour Chloé Morin de l'Institut Ipsos, ces traumatismes dessinent une montée en puissance du sentiment de vulnérabilité. Or, nos cerveaux ne sont pas armés pour appréhender ce qui relève de l'aléatoire. Donc, le premier réflexe est de rechercher par tous les moyens à maîtriser le risque, quitte à sacrifier toujours plus nos libertés. Mais de quelle liberté s'agit-il? Et de quel islam est-il question? Comment vérifier la pratique religieuse personnelle d'un fonctionnaire? Sur France 3, le syndicat Vigie alerte contre une chasse aux sorcières.
Aujourd'hui, avec l'affaire Arpon, il y a une chasse aux sorcières en disant qu'il faut qu'on cherche tout et n'importe quoi pour faire du chiffre et que le ministre fasse semblant d'agir. Alors moi, s'il y a des vrais problèmes, je pense qu'on ne les aura pas en brassant du vent. S'il y a vraiment des cas de radicalisation selon les critères de dérive sectaire, ce n'est pas en faisant ce qui est fait qu'on va les trouver.
La méfiance est un poison que Michael Arpon a inoculé dans l'appareil policier tout entier et qui exhorte l'exécutif à trouver le bon équilibre entre prévention et mesures liberticides. De toute façon, prévient-on en off à l'Élysée, on sera toujours accusé de dérive autoritaire par l'extrême-gauche et de faiblesse par l'extrême-droite, alors. Et le Parti Socialiste n'est pas en reste. Désignant Olivier Castaner, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, déclare « Il ne faut pas tirer sur l'ambulance ». Mardi 8 octobre, sous un ciel de plomb, les quatre cercueils des victimes sont présentés dans la cour d'honneur de la préfecture. C'est l'heure de l'hommage. Parmi les membres du gouvernement et sous les yeux du chef de l'État, Christophe Castaner leur remet la Légion d'honneur à titre posthume.
Secrétaire administratif Brice Lemescam, au nom du président de la République, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur.
L'heure est grave pour Christophe Castaner, qui doit affronter la commission d'enquête parlementaire présidée par le républicain Éric Ciotti. Mais il n'est pas le seul à être interrogé. Son secrétaire d'État, lui aussi, est questionné, tout comme Françoise Bilancini, la directrice de la DRPP. Entre secret défense et secret de l'instruction, tous avancent sur une ligne de crête, sans pouvoir mordre sur l'enquête en cours. Ils ont 6 mois pour tirer leurs conclusions, afin que jamais le drame ne se reproduise. 6 mois durant lesquels les policiers s'interrogent entre eux. Alors maintenant, qui va sauter? Christophe Castaner s'inquiète. Le climat devient irrespirable. D'autant que le militant d'extrême-gauche, Amada Traoré, organise un soutien à Michael Arpon devant l'hôtel de ville de Gonesse. Et que cette manifestation est autorisée par la préfecture du Val-d'Oise. Le tollé est immense dans la classe politique, qui pousse Castaner à ordonner lui-même l'interdiction de ce rassemblement. Traoré est placé en garde à vue pour apologie du terrorisme, mais il est libéré dès le lendemain, pile quand Daesh mentionne la tuerie à la préfecture dans sa lettre de propagande hebdomadaire, sans toutefois la revendiquer. Et enfin, les expertises informatiques parlent. On y découvre des vidéos de Daesh par centaines. Et on comprend que le matin du 3 octobre, Michael Arpon avait cherché comment se rendre à la Mecque, qu'il s'interrogeait sur les koufars, les mécréants, et qu'une heure avant l'attaque, il avait tapé dans la barre de recherche les mots suivants « tuer des mécréants ». Parallèlement, l'enquête parlementaire se poursuit avec les aveux du préfet de police Didier Lallement, qui annonce que seuls 48 signalements ont été enregistrés à la préfecture de Paris depuis 2012, dont 33 depuis la tuerie. C'est-à-dire 2 par an. Puis soudain, 33 en un mois. Parmi eux, seuls 12 ont été désarmés. Au sein des services de renseignement, ce sont 16 agents qui ont dû être écartés pour leur potentielle radicalisation ou celle de leur entourage. Et la stupeur saisit l'Assemblée. Interrogée à huis clos, la patronne de la DRPP, Françoise Bilancini, se défend. « Je n'étais pas à ce poste en 2015, lors de l'altercation autour de Charlie Hebdo. Oui, le fameux « c'est bien fait » clamé par Michel Harpon. « Si j'avais su, » poursuit Françoise Bilancini, « mais sans savoir, je ne peux pas agir. » Une ligne de défense qui n'est pas celle du secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, qui lui reconnaît les failles.
Dans un service de renseignement, l'attention, elle doit évidemment être plus soutenue. Et le moindre signal faible doit forcément attirer l'attention. Là, il y a eu un loupé. Il y a eu un loupé et ça n'est pas normal.
Après 8 mois de travaux, la commission d'enquête parlementaire livre des conclusions sévères. Le rapporteur de la commission, Florent Boudier, évoque un service de renseignement où règne un état d'esprit quasi familial et une forme d'autoprotection, d'autocécité globale. Il y a urgence à réformer le système, affirme-t-il. On assure, alors que des moyens seront alloués et qu'un groupe d'experts équilibrés sera créé, qui ne versera pas dans la chasse aux sorcières. Comprendre, la seule conversion à l'islam ne devra pas entraîner de signalement. Des vœux pieux aux yeux d'Éric Ciotti, qui en profite pour rappeler que l'imam fiché S, qui avait, à travers ses prêches, encouragé Harpon à passer à l'acte, n'avait rien à faire sur le territoire national. Un an après, Laurent Nunez est nommé coordinateur du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Au Parisien, qui l'interroge sur l'évolution de la situation, il répond. Ce qui a changé concrètement, une entité est dédiée dans chaque service maintenant pour recueillir les signalements et pour investiguer. Côté recrutement, les agents font désormais l'objet d'enquêtes plus intrusives pour obtenir l'habilitation secret défense et les entretiens se déroulent en présence d'un psychologue. Mais difficile d'en dire plus sans dévoiler les secrets.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Michael Harpon ou l'islamisme dans la police. On en parle avec notre invité Mathieu Suc. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste à Mediapart, vous êtes spécialiste des affaires en lien avec le terrorisme. Vous êtes l'auteur d'une enquête passionnante en 5 épisodes sur cette affaire précise. Et auteur aussi de Vendredi 13, livre qui recueille les témoignages des policiers, magistrats, pompiers, tels qu'ils ont vécu le drame, surtout juste après le drame. Commençons par la question pour cette affaire du manque de moyens. Le jour de la tuerie, les policiers qui étaient à l'étage, là où tout a commencé, qui ont voulu saisir une arme, en ont été empêchés car ils avaient dû, quelques jours plus tôt, et sur ordre de leur hiérarchie, déposer leurs semi-automatiques et leurs gilets pare-balles dans des armoires fortes qui se trouvent au 2e étage, mais pour des raisons de sécurité. Comment le comprendre ?
Alors, là, il n'y a pas forcément de scandale sur cet aspect-là. C'est probablement, on sait qu'il y a des risques, vous le mentionniez dans le sujet, il y a des risques de suicide à ce moment-là, il y a une pression qui est très forte, il y a des gens qui sont dans des cas de maltraitance au travail. Donc il y a probablement cette raison-là, et puis il y a quelque chose, c'est que la spécificité de cet attentat, c'est qu'on est sur un attentat ce qu'on appelle bleu sur bleu, c'est-à-dire commis par un policier sur d'autres policiers. Ce qui était le tabou des tabous et la chose qu'on avait du mal à imaginer. D'ailleurs, nous n'avons pas... les Américains avaient été frappés par Al-Qaïda sur une base avec des agents de la CIA, mais ce n'est pas au sein de la CIA. Là, c'est vraiment au cœur. Donc, quelque part, et pour quiconque a déjà mis les pieds à la préfecture de police, où effectivement vous devez passer tout un tas de portiques, et par ailleurs, la DRPP, ce service de renseignement, vous avez des portiques supplémentaires, c'est-à-dire que même les autres policiers au sein de la préfecture de police ne peuvent pas rentrer. Donc vous avez à la fois, donc la motivation c'est probablement éviter des suicides sur le lieu de travail, et de l'autre côté, on n'arrive pas à imaginer qu'on peut être frappé à notre tour, bien parce sûr. Qu'on est dans une espèce de cocon sécuritaire.
De sanctuaire.
Tout à fait.
Donc ce drame endogène porte un nom, celui de Michael Harpon, dont on va s'intéresser à lui maintenant. Un profil complexe, hein. Certains le décrivent comme un employé modèle, il est d'ailleurs bien noté, d'autres comme un tire-au-flanc. Alors vous rapportez les propos de sa référente handicap qui dit « Il en voulait toujours plus et n'était jamais satisfait de son sort. Par exemple, il n'était pas content de son sonotone que l'administration lui avait acheté. Un appareil de merde, disait-il. » Alors était-il colérique, paranoïaque, dépressif ou tout en même temps? C'est quoi le profil psychologique du bonhomme?
Alors, je vous dirais presque tout en même temps, et en même temps, je ne sais pas totalement. Et en venant, j'y repensais, le jour de l'attentat, et c'est la première fois ou la seule fois peut-être sur la vague d'attentats que nous avons vécu, j'ai eu plusieurs appels de magistrats, de gens des services, et qui me disaient, là Mathieu, je ne sais pas, on ne sait pas. On est sur un cas où y a des collègues qui nous disent « Ah non, mais il était radicalisé, il disait plus bonjour aux femmes, il faisait ci, il faisait ça. » Et puis il y en a d'autres qui nous disent « Ah non, mais il était maltraité. » Et probablement qu'on est un peu sur tout ça en même temps. C'est-à-dire que probablement qu'il y a eu du racisme, probablement qu'il y a eu aussi, on s'est moqué de ses handicaps, vous rappeliez le surnom de Bernardo, ouais. Ce n'est pas agréable à vivre. Et par ailleurs, peut-être qu'il se réfugiait aussi derrière son handicap pour en faire un peu moins. Donc peut-être qu'aussi, s'il n'a pas les postes auxquels il aspirait, c'était peut-être parce que il n'était pas, parce qu'il ne donnait pas entièrement satisfaction. Et on a tout ce mélange où on est vraiment dans la pâte humaine, on n'est pas sur noir ou blanc, c'est un peu tout ça. Et il y a une autre spécificité aussi. On a appris très récemment, d'ailleurs pendant au cours du procès de Magnanville auquel vous y avez référence, on a appris que l'instruction était en train de se clôturer sur la tuerie de la PP et que il n'y a personne de mis en examen et qu'on va aller vers un non-lieu général. C'est le seul attentat depuis 2015 où nous n'avons pas de complice. C'est le seul attentat qui permettrait. Vous savez, on a beaucoup parlé de la thèse du loup solitaire, on a beaucoup expliqué que c'était complètement folklorique et faux dans la réalité. Il y a toujours des réseaux avec des degrés de responsabilité divers. Et ben là, c'est le seul cas où, en tout cas, la justice, mais par ailleurs, je crois, à ma connaissance, les services non plus, n'ont jamais trouvé de traces. On est vraiment sur un cas, Michael Harpon est absolument unique dans l'histoire récente.
Alors son rapport à l'islam, maintenant, devant ses collègues. On parle de paranoïa, de victimologie, de provocation. Revenons sur les provocations.
Alors, il y a eu...
Il y a d'abord, c'est bien fait pour Charlie. Ça, c'est énorme provocation.
Tout à fait. Et il y a quelque chose de très particulier, c'est que en fait, en 2015, c'est un précédent chef de la DRPP qui est issu des renseignements généraux dont vous parliez, et avec un mode de management qui transpire les renseignements généraux. C'est-à-dire que c'était pas totalement normé, pas totalement structuré, ce qui explique que l'habilitation secret défense, alors qu'elle aurait dû sauter...
Elle était maintenue.
Elle était. On le révèle dans notre série d'articles. Moi, j'ai quelqu'un de la DRPP, enfin un ancien de la DRPP, qui m'explique qu'à peu près à la même époque que Michael Harpon, il est contacté pour venir signer son nouvelle habilitation. Ça faisait des années qu'il n'était plus dans un service de renseignement, qu'il ne travaillait plus à la DRPP. Il a été réhabilité. Je pense qu'à l'heure où nous parlons, il ne l'est plus. Mais voilà, c'était quelque chose... C'était pas très structuré. Et ce qui fait que tous les gens qui travaillent sur les services de renseignement, mais moi le premier, quand arrive la tuerie de la PP, qu'on apprend cet incident de 2015, on se dit « Ah bah oui, mais c'est l'ancienne manière ». Entre-temps est arrivée Françoise Bilancini, et justement pour mettre de l'ordre. Et Françoise Bilancini, donc la chef de la DRPP dont vous avez parlé, elle est beaucoup plus stricte, beaucoup plus rigoureuse. Pareil, on le raconte dans la série d'articles, à telle enseigne qu'elle est surnommée par les gens qui ont eu à passer sous ses fourches codines. On l'appelle Kill Bill. Ce qui ne dénote pas, qui traduit une forme de management un peu plus rigoureuse. Et donc tout le monde se dit, y compris le ministre Castaner, se dit, bon, bah d'accord, le raté Harpon, ça date de l'ancienne direction. C'était folklorique, c'était pas rigoureux, et on l'a pas vu. Sauf que ce qu'on va réaliser dans notre enquête de Mediapart, c'est qu'en fait, il y a cette alerte de 2015, qui déjà en soi aurait dû être suffisante, mais depuis 2017 et depuis l'arrivée de Françoise Bilancini, alors que effectivement, on peut mettre ça à son crédit, les critères avaient été rehaussés, il n'empêche, il y a eu une petite dizaine, une demi-douzaine d'alertes sur le comportement de Harpon, c'est-à-dire que certains de ses collègues l'ont vu parler à, je les cite, des barbus pendant son travail, à faire des commentaires sur des vidéos de l'État islamique en disant c'est normal. Et tout ça, il y a eu ces alertes-là et personne n'en a tenu compte. Donc en fait, le raté, il est beaucoup plus récent par rapport à la date de commission des faits que ce qu'on a voulu nous raconter dans les premières heures.
Il est collectif.
Il est collectif, tout à fait.
France Inter. Affaire sensible.
Mathilde Suc, dans cette affaire Michael Harpon, vous avez interrogé des salariés, des policiers, des policières de la préfecture. Vous avez rencontré l'une de ses collègues, notamment Imen, je crois, qui avait alerté ses supérieurs à de nombreuses reprises. Alors, comment comprendre que ces avertissements soient restés lettre morte? Ça, c'est la deuxième question. C'est quoi? C'est de la pudeur? C'est de la honte d'accuser un handicapé, de stigmatiser un musulman, ou tout simplement la peur de voir la réalité en face? Je pense que là encore, il y a tout en même temps.
Oui, à peu près. Et le cas est très intéressant. Alors, juste une précision sur Imen, je reproduis ses auditions. J'ai pas pu la rencontrer. Et Imen est un pseudo parce que j'ai pas identifié son nom. Son cas est très intéressant parce que c'est une femme qui est policière et qui va être recrutée par la DRPP, et elle arrive quelques mois, un an avant la tuerie. Il se trouve que donc quand elle arrive, un informaticien vient lui installer tous les logiciels dont elle va avoir besoin, c'est Michael Harpon. Et elle voit qu'il a un appareil auditif, et Imen a son propre frère qui est malentendant, donc elle parle à Harpon dans le langage des signes, et il sympathise. Et donc le frère d'Imen est un peu replié sur lui-même en raison de son handicap, et donc elle va essayer de le faire sortir avec Harpon. Ils vont aller jouer un match de foot, et le frère d'Imen va alerter sa sœur en disant « Mais tu m'as emmené quelque part, où est-ce que tu m'as envoyé ?» C'était des gros salafs, gros salafistes, oui. Sachant que le frère d'Imen est marié à une musulmane, donc il n'est pas effrayé par principe par la religion, et donc quand il voit des gens qu'il trouve très ou trop religieux, c'est donc qu'ils sont bien quand même ancrés dans une certaine forme de fondamentalisme. Elle a cette première alerte, plus des fois elle va manger avec Harpon, et il lui fait des remarques, il s'interroge sur le fait qu'elle soit maghrébine et que elle mange quand même du porc ou des choses comme ça. Et donc il y a tout un tas de signes qui l'alertent. Et elle va voir sa hiérarchie, sachant que Imen travaille à la section, à la sous-direction chargée de la lutte contre le terrorisme, et qu'elle est dans la détection de la radicalisation. Donc,
elle est en plein dedans.
Elle est en plein dedans. Elle va voir sa hiérarchie, et on lui dit « Oui, non mais on sait, Michael, il y a déjà eu une alerte, celle de 2015 que vous évoquiez. » Et donc, les gens ne prennent pas... Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Un, c'est la petite Jeannette qui arrive, c'est pas elle qui va nous expliquer la vie, et on lui dit « Non mais potasse tes dossiers ». Il y a ça. Il y a le fait que, en fait, elle va aller voir plusieurs personnes, mais personne n'en tire les conséquences. Et donc, à chaque fois qu'elle fait des alertes, on minore...
Et ça s'évapore.
Et ça s'évapore. Et alors que, en fait, quand les juxtaposent les unes à côté des autres, plus les alertes qui ont été faites par d'autres personnes entre 2015 et le jour du drame... en fait, ça fait sens. Quand moi, je l'écris, on est quelques années après la tuerie, tout le monde, en le lisant, se dit « c'est évident ». Sauf que là, en fait, on a des choses qui se perdent au fur et à mesure. Et pour préciser, quand je vous disais...
Donc là, c'est pas intentionnel. C'est-à-dire que c'est une mauvaise gestion des informations.
Il y a une mauvaise gestion, il y a probablement... Il y a effectivement ce que vous disiez, l'espèce de « on va pas dénoncer un collègue qui est handicapé ».
Ça, c'est intentionnel. C'est un principe.
C'est non-dit, c'est quelque chose, mais voilà. Il y a, c'est la petite jeune qui arrive dans le service et qui nous apprend, qui va nous apprendre notre métier. Il y a un tas de choses. Par exemple, elle va voir à un moment les deux policiers dans le service de renseignement qui l'ont fait venir dans le service. Et elle leur dit, mais vous savez, lui, il est suspect. Et ces hommes-là la calculent pas. Donc voilà, c'est une juxtaposition de raisons qui sont audibles, sauf que dans un service de renseignement, bah non, normalement.
Bah oui. Et c'est donc pour cela que l'affaire devient politique. Avec Castaner au premier rang pour assumer les manquements, c'est normal, il est ministre de l'Intérieur. Lors de l'hommage aux victimes, Emmanuel Macron s'exprime devant les cercueils. Vous allez entendre, le discours est particulièrement offensif.
La justice passera comme il se doit. Je suis venu parmi vous, enfin, pour que nous regardions la vérité implacable et en tirions toutes les leçons, pour prendre devant vous l'engagement au nom de l'État d'empêcher que se perpétuent de telles dérives. Mais je veux aussi vous le dire avec force aujourd'hui. Les institutions seules ne suffiront pas. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Non. C'est la nation tout entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. Nous ne l'emporterons que si notre pays, qui est venu à bout de tant et tant d'épreuves dans l'histoire, se lève pour lutter contre cet islamisme souterrain qui corrompt les enfants de France. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Mathieu Suc, en guise de conclusion? Il nous reste 40 secondes.
Que tout est faux dans ce discours, parce que autant ça peut être audible sur les autres attentats, mais là, toutes les alertes, elles étaient à l'intérieur de l'administration. La société civile ne pouvait absolument rien faire. La seule personne, c'est sa femme, et elle contacte des gens à la DRPP en disant « là, il est bizarre aujourd'hui ».
Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci, merci infiniment. Mathieu Suc, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Mickaël Harpon, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Merman.